autour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver avec Apolline Verlon-Raison à la réalisation pour secouer un peu notre cocotier aujourd'hui. Notre tendance humaine, trop humaine, à systématiquement sous-estimer l'intelligence des autres animaux. Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux ? Question pertinente ouverte par le célèbre primatologue et éthologue Franz De Waal dans son dernier essai. Après avoir mis en lumière la coopération, l'empathie et la culture chez les grands singes, Franz De Waal continue à bousculer nos préjugés sur les capacités cognitives des chimpanzés, mais aussi des éléphants, des corbeaux ou même des rats. Nous vous proposons de réécouter l'entretien qu'il nous avait accordé lors de son dernier passage à Paris, c'était en octobre 2016, autour de la question « Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux ?» Bienvenue à vous. Bonjour Franz De Waal.
Bonjour.
Merci d'avoir profité de votre passage à Paris pour être en direct avec nous. Vous êtes un des plus célèbres primatologues et éthologues de la planète, on peut le dire. Professeur de psychologie à l'université Emory d'Atlanta aux États-Unis. Vous dirigez le Yerkes National Primate Research Center où vous avez mené la plupart de vos recherches sur les chimpanzés, les bonobos ou les macaques. Recherches sur leurs comportements sociaux qui en 40 ans ont contribué à révolutionner toutes nos conceptions sur l'intelligence animale en général, celle des singes en particulier. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, notamment sur l'empathie, et vous venez de publier aux éditions LLL « Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux ?» Un essai nourri d'incroyables histoires vraies qui sont autant d'exemples de notre difficulté humaine, finalement, Franz De Waal, à appréhender les capacités cognitives des animaux. Nous les sous-estimons toujours, les animaux, finalement.
Mais pourquoi on fait ça ? Oui, parce... Je pense qu'il y a toute une histoire religieuse, bien sûr. Nous, on a une âme et les animaux, ils n'ont pas. Mais ça va, en fait, ça retourne aux Grecs, c'est avant notre religion, qu'il y avait toute une échelle, que nous on était près de Dieu, on est divine, en fait, et on est différent des animaux. C'est une très longue tradition dans notre région. Ça se trouve pas tellement en Afrique ou en Asie parce que les gens vivent avec des primates, ils connaissent des primates, ils savent qu'il y a des animaux très similaires à nous. Mais nous, ici, on n'a jamais eu de primates et nos folklores ou nos fables, de La Fontaine, il y a des renards, il y a des corbeaux, mais il n'y a pas de primates là-dedans. Et c'est très facile de garder cette image de notre espèce comme très différente du reste s'il n'y a pas de primates.
Et les primates, justement, et les études en éthologie et les questions posées chez chercheurs comme vous ont fait complètement changer notre regard. Parce que cet essai assez impertinent, c'est aussi une histoire de l'éthologie, finalement, et du changement du comportement de tout le monde, mais des chercheurs en particulier sur les animaux qu'ils étudient.
Oui, le siècle dernier, on essayait de mettre tout ce que les animaux font dans deux petites boîtes. C'était soit un instinct, soit c'était un apprentissage très simple. Dès qu'un scientifique disait que peut-être il y a d'autres choses, peut-être les animaux peuvent penser ou planifier ou peut-être ils peuvent avoir des concepts. Non, ça c'était pas possible parce que ça allait pas dans les deux boîtes. Et c'est comme ça que pendant tout ce siècle-là, on a évité en fait des questions intéressantes. Et c'est seulement les derniers 25 ans, je crois, que les jeunes scientifiques, c'est pas les vieux, mais les jeunes, ils ont commencé à demander d'autres questions.
Et vous avez été quand même un des premiers à poser d'autres questions.
Oui, moi je suis pas si jeune, mais il y en a de qui demandent ces genres de questions plus tôt. Mais c'est comme ça que ça se développe maintenant.
Autour de la question « Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux ?» Première piste de réflexion sonore qui secoue notre cocotier à nous avec le mix forcément éthologique d'Apolline Verlon-Raison.
À qui pourraient faire penser ces chimpanzés, ces orang-outans, ces gorilles et ces bonobos ?
Il a un sens artistique très développé. Il aime beaucoup la musique classique et fait de superbes peintures.
L'empathie d'origine vient de l'instinct maternel, le soin maternel.
Une jeune femelle orang-outan qui joue avec les petits tigres donne le biberon.
L'éthologie, c'est un magnifique outil, mais ce n'est qu'un outil. Ce qui compte, c'est de comprendre. Ce qui compte, c'est de répondre à la question pourquoi.
Il y a des chiens qui battent de la queue quand ils sont contents, ou également qui battent de la queue dans certaines positions quand ils sont dans des grands états de tension.
Et l'équipe de la ferme aux crocodiles pense que le couple peut encore se rabibocher.
Les baleines et les dauphins ont un cerveau très développé et mènent une vie sociale complexe.
Je crois qu'on pourra parler avec les dauphins d'ici 5 ans.
Je lui dis, je reviens. Et bien directement, il va dans sa panière.
Je suis comme tout le monde fasciné par certains comportements animaux.
On pourrait croire que cet éléphant dessine sa propre image.
Nous nous sommes rendus compte que nous étions bien plus proches d'eux que ce que nous pensions.
Peut-on vraiment parler de conscience pour un animal ? Est-il intelligent ? Sait-il qui il est ?
Un soigneur fait une marque sur une femelle orang-outan. Puis il la place devant un miroir.
Le jeu préféré des bonobos du Congo, c'est l'imitation.
Cette femelle gorille parle le langage des signes.
Qu'est-ce qu'il perçoit, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il a comme émotion ? Historiquement, je pense, on a sous-estimé leur capacité cognitive.
Alors Franz De Waal, aujourd'hui on commence à un peu moins sous-estimer les capacités cognitives des animaux, des grands singes en particulier. On l'a dit, vous avez été un des premiers, c'était d'abord au zoo d'Arnhem, hein, aux Pays-Bas, vous avez été un des premiers à parler de réconciliation chez les chimpanzés, de consolation, c'est ça, pour résoudre un conflit?
Oui, oui, ce sont deux choses différentes. La réconciliation, c'est entre les deux qui ont un conflit. Et après, ils viennent ensemble, ils s'embrassent, ils font des dépouillages, tout ça. Ils font un contact pour réparer leur relation. Et la consolation, c'est plutôt qu'un des chimpanzés ou un des bonobos est attaqué et a crié, tout ça. Et d'autres viennent pour le calmer. Et ça, c'est un acte d'empathie, en fait. Moi, je suis très intéressé dans l'empathie parce que je pense que toutes les mammifères, ils ont un certain degré d'empathie.
D'empathie, donc de, oui. De quoi ? De ce degré de la capacité, pardon, de se mettre à la place de l'autre, de ressentir ce que ressent l'autre.
Oui, d'être sensible aux émotions de l'autre, d'être affecté par les émotions et souvent avoir la même émotion. Par exemple, vous avez peur, moi j'ai peur, vous êtes content, moi j'ai content. Et ce genre d'empathie, on trouve chez toute la mammifère. Et récemment, on a fait des expériences sur le rongeur, mais j'ai commencé mes études sur ça, chez les chimpanzés, le bonobo et tout ça.
Mais comment vous est venue l'idée de cette empathie? Parce qu'effectivement, on l'a dit, ça semblait, il y avait que les humains qui étaient capables d'empathie, d'avoir les mêmes sentiments, de consoler, de se réconcilier, enfin.
Oui, oui.
Comment vous êtes venu dire, c'est en les observant,
Oui, en observant, et la raison que les gens pensent que seulement l'homme a d'empathie, c'est parce qu'ils ont eu une conception trop cognitive d'empathie. Ils pensent que l'empathie veut dire qu'on peut s'imaginer dans la situation de l'autre. Et moi, je ne suis pas sûr qu'un chien peut faire ça, par exemple. Mais un chien peut être très sensible aux émotions de l'autre. Et c'est comme ça que l'empathie commence.
C'est comme ça que l'empathie commence et elle existe, vous dites, chez tous les mammifères, c'est-à-dire à un degré, oui, peut-être plus fort chez les primates qui sont,
oui,
nos cousins.
Chez les chimpanzés, le bonobo et aussi l'éléphant, les dauphins, des animaux avec de grands cerveaux, c'est plus complexe. Eux, ils peuvent en fait s'imaginer dans des situations d'autres et on peut prouver qu'ils ont une certaine imagination qui va beaucoup plus loin que ça. Mais toute la mammifère, ils ont cette sensibilité aux émotions de l'autre qu'on trouve aussi chez un enfant humaine de quelques semaines, on trouve cette sensibilité aussi.
Donc cette empathie-là, mais pas seulement, parce que vous dites aussi, hein, dans ce livre, sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux, qu'une question qu'on ne posait jamais, c'est est-ce que les animaux sont capables, enfin les primates en tout cas, de se dire bonjour et au revoir. Et vous dites, il y en a beaucoup qui savent,
oui,
ce que c'est que bonjour et au revoir finalement.
Oui, alors dire bonjour, c'est très simple, parce qu'en fait, les chiens font ça constamment, les chats ne sont pas si bien là-dedans, mais les chiens font ça.
Ils disent bonjour, oui.
Ils disent bonjour, ils sont sont très contents de te voir.
Ils font la fête, quoi.
Revoir, oui.
Ah, de te revoir, oui.
Oui, mais dire au revoir, ça, c'est plus compliqué, parce que pour ça, il faut anticiper la séparation. Et ça, c'est plus complexe. Et c'est pour ça qu'il y a très peu des animaux. Il y a plein de gens, bien sûr, qui disent au revoir à leur chien ou à leur chat, mais ça ne veut pas dire qu'eux, ils vont le faire. Mais chez les primates, chez les chimpanzés, par exemple, on a eu une situation, c'était intéressant, on avait une femelle qui fallait sortir du groupe régulièrement pour un certain traitement, et chaque fois qu'on le séparait du groupe, elle faisait tout un tour de toutes les chimpanzés sur l'île où elle habitait pour dire au revoir, donner un baiser, et seulement après tout ça, revenait dans le bâtiment.
Donc elle avait la conscience, le sentiment, elle savait bien qu'elle partait,
oui,
et qu'elle voulait dire au revoir.
Oui, oui. Alors, il y a des espèces qui peuvent faire ça, mais pour faire ça, il faut anticiper le futur, oui.
Comment anticiper le futur? Vous qui avez beaucoup fréquenté les bonobos, Franz De Waal, voudriez peut-être être un bonobo. I want to be a bonobo. Sur RFI, Holly Tannen, que vous nous avez intelligemment conseillé.
Oui, oui, oui.
Oh, I want to be a bonobo life for me. I want to be a bonobo, I'm a bonobo wannabe. We hang around the trees and sit on one another's knees and search for nits and ticks and fleas. It's a bonobo life for me. I wanna be a bonobo life for me. A bona fide bonobo, I'm a bonobo wannabe. We nest up in the trees at night and fondle everything in sight. We hardly ever have to fight. It's a bonobo life for me. You can harangue an orangutan, you can moan a baboon, as we cuddle and kiss in binobial bliss on our bonobo honeymoon.
Oh, come over here, Mama Bonobo, and sit on your daddy's knee. Oh, do you want a bonobo, bonobo a bit with me? And if we do bonobo, I will not charge a fee. I'll do it pro bonobo, I'm a bonobo wannabe.
You can thrill a gorilla, make free with a chimpanzee, but I wanna be a bonobo, it's a bonobo life for me. Oh, I wanna be a bonobo, I'm a bonobo wannabe.
I want to be a bonobo, Holly Tannen, sur RFI, sur vos conseils avisés. Franz De Waal, ça vous dirait une vie de bonobo?
Je veux bien être un bonobo. Il y a beaucoup d'animaux que je pourrais être.
Ah, par exemple.
J'aime aussi être un oiseau. Moi, je trouve ça très intéressant d'être un corbeau, par exemple.
Eux aussi, ils sont sacrément intelligents, on va y venir. Ils savent utiliser des outils. Autour de la question, sommes-nous trop bêtes pour comprendre justement toutes ces intelligences des animaux? C'est aussi le titre de votre dernier essai paru aux éditions LLL. Je vous propose tout de suite, Franz De Waal, un nouvel éclairage sur la transmission du savoir chez les chimpanzés. C'est celui de la primatologue Sabrina Krief. Alors elle a mis en évidence dans le parc de Kibale en Ouganda que les chimpanzés utilisent des plantes pour se soigner, mais écoutez son éclairage un peu plus large sur un comportement symbolique qui lui plaît particulièrement.
On décrit des comportements assez étonnants chez les chimpanzés en particulier. Certains sont liés à l'utilisation d'outils, donc des choses matérielles pour se nourrir, mais d'autres complètement symboliques a priori et plus du tout attachées à des aspects matériels. C'est le cas de la danse de la pluie qui est pratiquée dans certains groupes de chimpanzés, mais pas tous, donc qui se transmet de génération en génération. Et ça, c'est absolument fabuleux. En fait, les grands singes se dressent, se hérissent, se mettent en position bipède et puis effectuent une sorte de danse lente, magnifique, entre les arbres au moment de l'orage.
La danse de la pluie, la danse de l'orage, Franz De Waal, qui se transmet en plus.
Oui, en plus, ils ont récemment découvert que les chimpanzés dans la forêt, ils accumulent des pierres qu'ils mettent sur tout un tas. Et ils ne savent pas pourquoi ils font ça. Et c'est aussi peut-être un acte symbolique. Alors maintenant, il y a toute cette spéculation que peut-être il y a des actes symboliques chez les grands singes. Et la danse qu'elle décrit, moi, je l'ai vue en captivité, dans des tonnerres et des orages. Les chimpanzés, ils se mettent, surtout les mâles, ils mettent tous leurs poils debout et ils commencent à marcher bipédal. Mais c'est très intéressant. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est similaire à la religion, je ne sais pas quoi.
Ouais, il faudrait être dans la tête d'un chimpanzé pour le savoir. Mais en tout cas, les chimpanzés, dans cette forme d'intelligence, ce serait quoi? Ce serait parmi les plus forts des animaux. Ils ont une mémoire incroyable. Vous citez le cas d'un jeune chimpanzé qui a une mémoire insensée. Bien, on parle de la mémoire des éléphants, mais là, c'est la mémoire des chimpanzés.
Oui, ça, c'est Yumo, ça, c'est un chimpanzé au Japon qui a appris de taper 9 numéros sur un écran. Et les numéros paraissent toujours dans une organisation différente et disparaissent dans moins qu'une seconde. Alors, il le voit seulement une milliseconde et ils disparaissent et il faut qu'ils tapent les locations où ils étaient, les numéros, dans le bon ordre. C'est un truc que les étudiants japonais qui étaient entraînés pour ça ne pouvaient pas faire.
Alors, une complexité.
Oui, c'est un acte de mémoire que l'homme ne peut pas faire. Et c'est bizarre qu'il y avait des scientifiques en Amérique qui étaient très troublés par ça. Et je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être ils ont la conception que dans chaque chose, l'homme doit être supérieur dans chaque chose. Et ce n'est pas vrai. Il y a plein d'animaux qui peuvent faire certaines choses que nous, on ne peut pas faire. Et je ne sais pas pourquoi ils étaient si troublés par ça.
Oui, parce qu'en fait, il y a des chimpanzés à qui on a appris le langage des signes, par exemple. Enfin, les chimpanzés, ils sont capables d'apprendre et du coup même à communiquer à notre manière. Parce que finalement, ils ont d'autres manières de communiquer. Tous les animaux, ils ont leur...
Oui, c'est peut-être une approche un peu anthropocentrique. On apprend aux chimpanzés de faire des choses que nous, on fait très bien, c'est le langage. Et on voit qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça. Et on est très impressionnés s'ils font certaines choses. Mais c'est une façon... Nous, on en demande toujours des questions dans les domaines où nous, on est très forts. On veut tester le chimpanzé sur l'utilisation des outils, par exemple, ou le langage, ou le planifier. Ce sont des choses que nous, on fait. On est très fiers qu'on peut faire de ce genre de choses. Et on teste les animaux sur ça. Mais ça que j'explique dans le livre, qu'en fait, il faut prendre une approche complètement différente.
Comment il faudrait tester justement les chimpanzés? Hein? Sur quoi il faudrait tester, vous qui les connaissez bien?
Le chimpanzé est si similaire à nous que peut-être pour les chimpanzés ça marche comme approche, mais pour beaucoup d'autres animaux, par exemple les animaux qui ont des écolocations, comme la chauve-souris, le dauphin, pourquoi pas demander des questions là-dessus? C'est très complexe.
Là où il sera bien plus intelligent et bien meilleur que nous.
Dans ce domaine-là, bien sûr, ils sont beaucoup mieux que nous. Et ça, c'est très intéressant comme question, mais nous, on demande toujours des questions qui sont liées à notre intelligence de nous-mêmes. Oui.
Mais en même temps, comment poser ces questions-là à des animaux? Vous avez aussi travaillé sur les poissons, là, on parlait des dauphins, sur des animaux qui ne vivent pas dans le même milieu que nous. Enfin, comment on leur pose des questions, justement, à ces animaux-là?
C'est vraiment très complexe, parce que nous, on travaille, par exemple, avec des éléphants. Les éléphants, ils ont des cerveaux très grands, ils sont très intelligents, mais ils ont un corps et ils ont des sensibilités complètement différentes. Perception complètement différente. Ils ne sont pas si visuels que nous.
Alors, ils sont tactiles, les éléphants, avec leur
trompe? Oui, ils sont très tactiles aussi. Et par exemple, les éléphants ont été testés sur l'utilisation d'outils et les gens avaient conclu qu'ils ne sont pas capables. Mais ils avaient donné une branche pour prendre la nourriture et l'éléphant n'a jamais fait ça. Mais s'ils ont donné la nourriture très haute au plafond et l'éléphant a donné des boîtes, les éléphants, ils ont collecté les boîtes et les mis sous la nourriture pour se mettre dessus. Alors ça veut dire que l'éléphant ne veut pas fermer, comment dire, le tronc, c'est l'organe avec qui il sent. Il ne veut pas fermer ça pour prendre une branche, mais il veut bien prendre d'autres outils.
Oui, parce qu'en fait, la trompe, ça lui sert à beaucoup d'autres choses. Oui, c'est plus qu'une main, quoi, finalement.
Oui, donc, c'est ça. Mais nous, on confondait ça avec une main. Et c'est pour ça qu'il faut toujours tester les animaux, se mettre dans leur corps.
Ça. C'est une question de corps. Comment ils font avec leur sens, avec leur corps, c'est ça.
Et ça, c'est la difficulté de notre discipline, c'est de comprendre les animaux, surtout des animaux qui sont très différents de nous, à leur façon de vivre et comment ils résolvent des problèmes dans leur environnement.
Et c'est plus facile de les étudier en captivité, enfin dans des parcs, dans des centres, ou alors de les étudier ddans la nature, enfin là où vraiment ils... dans leur milieu.
Moi, je trouve qu'il faut faire tous les deux. On peut donner des questions en captivité qu'on peut pas. Par exemple, on peut voir des chimpanzés dans la nature qui cassent des noix avec des pierres, mais on ne sait pas comment ça a commencé, comment ils ont appris ça, qui a inventé
donc
ça.
Donc pour ça, il faut regarder captivité. Oui. Pourquoi sous-estimons-nous toujours l'intelligence animale? L'animal, on est mal. On écoute Gérard Manset sur RFI.
Animal, on est mal, on a le dos couvert d'écailles, on sent la paille dans la faille, quand on ouvre la porte, une armée de cloportes vous repousse en criant, ici pas de serpent.
Gérard Manset, Animal, on est mal. Sur RFI, on continue de s'interroger avec le célèbre primatologue et éthologue Franz De Waal autour de la question empruntée à son dernier essai « Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux ?» Et si pour être moins bêtes, justement, il nous fallait décentrer un peu notre regard, changer de perspective, voire même nous mettre à la place des chimpanzés, des poulpes ou des pigeons. Oui, des pigeons, animal fétiche d'un autre éthologue, le professeur Luc-Alain Giraldo, qui dirige l'Institut National de la Recherche Scientifique au Québec et qui a publié « Dans l'œil du pigeon ». On l'écoute.
Alors les pigeons, on peut dire qu'ils sont futés peut-être, mais vous allez vous reconnaître peut-être parmi eux. Ils sont très, très habiles pour repérer ceux qui savent quoi faire. Et lorsqu'on a trouvé celui qui sait comment faire, ben on n'a pas besoin de le faire. On le suit et on mange tout ce qu'il trouve. Et c'est ce que les pigeons savent faire, s'exploiter les uns les autres. Sauf, et ce qu'il y a d'intéressant dans le monde des pigeons, c'est que chacun a appris quelque chose de différent.
Donc c'est des individus.
Enfin, oui,
c'est vraiment des individus.
Et même ceux qui ont appris une chose sont tellement habiles à faire cette chose qu'ils finissent par empêcher les autres d'apprendre. C'est comme essayer d'apprendre à utiliser un ordinateur avec quelqu'un qui vient toujours appuyer sur les boutons à notre place.
Trop fort, un peu égoïste, les pigeons. France de Waal, vous voulez réagir à cet éclairage?
Non, en fait, je trouve ça très intéressant parce qu'en général, les pigeons et aussi les rats, dans le laboratoire, ils sont testés individuellement, dans une petite cage, tout seul, avec le Skinner Box, comme ça s'appelle. Et ça montre, l'exemple ici, ça montre que, en fait, c'est un truc bizarre. C'est des animaux très sociaux qui ont de l'attention pour ce que les autres savent et peuvent faire. Et toute cette idée de tester les animaux en isolation, comme on fait maintenant beaucoup encore, c'est en fait faute. Nous, on teste souvent nos singes dans des situations sociales parce que c'est en fait les situations naturelles et c'est beaucoup plus intéressant, je trouve.
Et oui, ce sont des animaux sociaux. Donc, nous, on est des animaux sociaux. Les singes sont des animaux sociaux. Oui. Les pigeons sont des animaux sociaux. Les oiseaux, d'ailleurs, c'est ce que disait ce chercheur, peuvent vraiment nous inspirer parce que ce sont des animaux sociaux, mais qui ont évolué différemment.
Oui, ils sont différents. Et souvent, leurs cerveaux sont différents de mammifères, tout ça. Mais souvent, ils arrivent à le même genre de solution. Et par exemple, il y a des corbeaux qui peuvent utiliser des outils. Personne n'avait pensé ça, mais ils sont très bien à utiliser et même fabriquer des outils.
C'est
une chose qu'on avait pensé que seulement le grand singe et l'homme peuvent faire, mais maintenant on sait que les corbeaux font ça aussi.
Oui, on découvre des capacités incroyables aux animaux. Alors les perroquets, bien sûr, il y a eu le fameux perroquet Alex, Dirina Pepperberg, qui a appris, qui communiquait avec sa chercheuse, qui est mort il y a quelques années d'ailleurs.
Oui, Alex, il était très important parce qu'il a montré qu'il y a certains concepts qu'il peut comprendre. Par exemple, on peut montrer des objets et demander qu'est-ce que le matériel. Il peut dire c'est un bois, c'est un métal. On peut demander quelle couleur. Ou on peut même montrer 6 objets. 5 sont verts. Un est bleu, on demande qu'est-ce que la différence, quel est différent. Il dit bleu. Il a des concepts qu'on avait pensé jusqu'à il y a 25 ans. On pensait que tout ça dépendait du langage. Mais en fait, le grand singe et Alex et d'autres exemples montrent qu'on peut très bien penser et résoudre des problèmes sans langage.
C'est ça, sans langage, des concepts et pouvoir les communiquer.
Oui.
Alors, les vidéos d'Alex sont disponibles sur Internet. Vous le dessinez, hein, Alex, France de Waal, dans ce livre. Vous dessinez aussi tous les animaux qui ne sont pas si bêtes que ça du tout. Tout dépend des questions qu'on leur pose. Vous travaillez actuellement sur les rongeurs aussi, sur les petits rats.
Oui, on a fait une expérience d'empathie avec le rongeur, parce qu'on ne peut pas faire le neuroscience, neuroscience sur les éléphants ou les chimpanzés, c'est pas possible.
Alors on a fait faire de l'expérimentation sur leur cerveau, sur ces animaux-là, trop proches de nous.
Oui, on a fait ça avec le rongeur et on a trouvé qu'en fait, le base de neural base d'empathie est exactement pareil qu'à l'homme. Et il y a l'oxytocine dedans qui joue un rôle. Et,
dans le cerveau, donc le cerveau d'un petit rongeur, il fonctionne comme nous.
Comme nous.
Ça veut dire aussi qu'il souffre comme nous, hein, quand
doute,
on lui fait quelque
sans
chose.
Doute, oui. Sans doute, oui. Ça m'étonnerait pas. Aussi pour le poisson, tout ça. On a toute cette discussion. Est-ce qu'un poisson peut souffrir? La plupart des scientifiques pensent que oui, c'est sans doute vrai.
Qui a un système neuronal, un système nerveux, finalement différent du nôtre, mais qui fonctionne un peu de la... Enfin, pas de la même manière, mais qui fonctionne empathiquement aussi.
Oui, mais pour le mammifère, tout ça, c'est pareil. Hein. Le cerveau d'une rat ne sont pas tellement différents de le cerveau de l'homme. Il y a une différence de taille, bien sûr. Et alors, la façon de le voir, c'est, nous, on a un ordinateur qui a plus de pouvoir, mais ce n'est pas un ordinateur différent, c'est le même principe, en fait.
C'est le même principe. Autour de la question, sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux? Je propose maintenant, France Deval, un nouvel éclairage. C'est celui d'une philosophe et éthologue belge, Vinciane Després. Elle s'intéresse aux relations, justement, entre les chercheurs et les animaux qu'ils étudient. Pour simplifier, on pourrait dire qu'elle a remarqué que quand un chercheur pose une question bête, l'animal donne une réponse bête. Ça ne vous étonne pas. Mais si le chercheur lui pose une question intelligente, alors la réponse de l'animal a quelque chose de l'être aussi. On écoute Vinciane Després.
Quand les animaux acquièrent des compétences, c'est souvent parce qu'un chercheur a pensé à leur poser une question qui était inédite. On voit que, par exemple, dans les années 60, les singes vont passer l'épreuve en laboratoire, dite de la tache verte, ce qui permettrait de penser qu'ils se reconnaissent dans un miroir. Pour rappel, cette épreuve, on habitue un chimpanzé à voir ce que c'est qu'un miroir, et puis on l'endort, on lui peint une tache verte sur le front, et puis on le reconfronte, éveillé bien entendu, au miroir. S'il efface la tache, c'est donc bien qu'il a perçu que la tache était sur lui-même et non pas sur un congénère qui serait face à lui. Et puis donc de là, on va en tirer certains scientifiques. Il y aura évidemment des controverses, hein, comme d'habitude. Certains vont dire, mais non, ça ne veut pas dire que les animaux se reconnaissent. Et même s'ils se reconnaissent, vous ne pouvez pas affirmer qu'ils ont conscience d'eux-mêmes. Là où d'autres scientifiques vont être beaucoup plus catégoriques en disant, mais si, justement, ce serait bien le signe et le témoignage qu'ils ont conscience d'eux-mêmes. Et puis qu'est-ce qu'on voit? Quelques temps après, des chercheurs vont se dire, mais tout cas, si les chimpanzés peuvent faire ça, les baleines, elles sont quand même très intelligentes aussi. Quels sont les dispositifs qui permettraient aux baleines de se reconnaître dans un miroir? On va créer des grands miroirs, on va essayer, les miroirs seront trop petits, donc ça fera plein de difficultés. Et puis un beau jour, les baleines accèdent à la reconnaissance. Et puis d'autres scientifiques se disent, enfin, si les baleines sont arrivées à le faire, probablement les dauphins pourraient y arriver. Et ainsi, de proche en proche, on va arriver finalement à ce que des animaux, même inattendus, c'est-à-dire par exemple des pies, dont on n'attendait pas du tout qu'elles se reconnaissent dans le miroir, puisqu'on avait dit, ah non, ça c'est typiquement un truc de mammifère, il faut un néocortex très développé, les oiseaux ne sont pas dans la bagarre. Et qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là? C'est que des chercheurs vont se dire, oui, mais ils sont quand même très sociaux, et la socialité, ça développe des compétences peu ordinaires, donc peut-être que cette compétence... Et puis on fait passer le test à des pies, et qu'est-ce qu'on voit? Certaines pies se reconnaissent. Deux parmi les cinq pies qui ont été testées se reconnaissent très clairement dans le miroir. Et qu'est-ce que disent les chercheurs? Nos pies ont enfin franchi le Rubicon cognitif.
Le fameux test du miroir, France Deval, brillamment passé donc par les pies, après les éléphants, les baleines et les chimpanzés. Vous voulez réagir?
Oui, on peut en fait aller plus loin, parce que peut-être c'est un test qui marche très bien avec des espèces visuelles qui ont un bon système vision, mais on ne peut pas tester forcément un chien comme ça, parce que un chien, ça marche beaucoup plus avec l'olfaction. Alors, ce test de miroir est très bien pour certaines espèces, mais peut-être il faut tester d'autres animaux d'une autre façon.
Tester le chien avec un miroir olfactif, en fait, à l'odeur, oui. Il sait très bien qui il est et qui est l'autre, quoi.
Oui, en fait, ils ont essayé ça. Ils ont essayé de tester des chiens avec une odeur de eux-mêmes. Alors ça, c'est cognition de soi-même. Mais dans l'odeur, ils avaient mis un élément qui était différent de normal. Et les chiens, ils donnent plus d'attention à ce genre de... C'est une sorte de test, un olfactory mirror test, comment dire.
Test olfactif du miroir.
Ils ont essayé ça et ça marche. Et en fait, il faut être créatif dans ce genre de choses, je crois.
Il faut être particulièrement créatif quand on s'intéresse à d'autres genres d'animaux, comme par exemple les pieuvres. Enfin, les poulpes, qui sont eux aussi, a priori, intelligents. D'autres formes d'intelligence, mais une vraie forme d'intelligence.
Ils ont en fait un grand cerveau, mais ils ont aussi beaucoup de neurones, comment dire, ganglia, dans leurs bras. Ils ont 8 bras.
Donc ça fait beaucoup de neurones dans beaucoup de bras.
Ils ont des millions de neurones qui ne sont pas dans leur cerveau. Et nous, comment on va comprendre un poulpe qui marche comme ça, qui a une sorte de système Internet sur son corps? Et moi, je trouve toujours la question, est-ce qu'on est plus intelligent qu'un poulpe? Est-ce qu'on est plus intelligent qu'un éléphant? Ce n'est pas une bonne question, parce que les animaux sont tellement différents, leurs cerveaux sont différents, leur mode de vie est très différent. Les comparaisons sont très difficiles à faire, mais nous, notre espèce aime comparer ça, et bien sûr on veut toujours être le supérieur, toujours être le plus intelligent de tout, mais c'est très dur de faire ce genre de comparaison.
Mais sans comparer, on est quand même a priori la seule espèce qui pose cette question-là sur les autres, sur le poulpe, sur l'éléphant. L'éléphant se pose peut-être des questions sur nous, mais pas les mêmes.
Oui, pas la même. Ils n'ont pas une entreprise scientifique, je crois.
Voilà, voilà. Donc ça serait peut-être quand même une différence.
Oui, ça c'est une différence, mais on est très anthropocentrique dans la façon qu'on on approche les espèces dans leur intelligence.
Mais parfois, ça a du bon, l'anthropomorphisme, l'anthropocentrie. Vous citez le cas de primatologue très célèbre, hein, Jane Goodall, qui donnait des noms aux, aux chimpanzés qu'elle étudiait, mais vous dites que dans la nature aussi, les animaux entre eux, alors c'est pas comme nous, mais ils peuvent se donner des noms.
Oui, ça c'est intéressant. C'est les dauphins, ils ont certains sons qu'ils font qui servent à identifier l'individu. On appelle ça signature whistles. C'est une signature qu'ils ont. Mais ça qui est intéressant, c'est que d'autres dauphins peuvent imiter le son. Imagine, moi j'ai une certaine mélodie que je produis régulièrement. Il y a un autre dauphin qui peut imiter cette mélodie pour m'appeler. Et c'est pour ça que les scientifiques qui travaillent avec les dauphins, ils disent qu'ils ont des noms. Et ils s'appellent par nom.
C'est leur signature musicale en fait.
Oui,
On les appelle par leur signature, enfin musicale, on pourrait dire comme ça.
L'autre peut imiter cette signature pour avoir l'attention d'individus.
Et ce qui veut donc dire que ce sont des individus aussi, hein, ce qui change quand même complètement la donne. Ce ne sont pas des animaux, ce sont comme nous, on est des humains, mais on est des individus.
Oui, cette signature, ça reste avec eux pour toute leur vie. Ils ont toute leur vie, ils développent ça quand ils ont 3-4 ans d'âge et ils gardent ça toute leur vie.
C'est leur nom, hein, en fait.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a, vous, enfin, vous compilez aussi toutes les incroyables découvertes en éthologie au fur et à mesure qu'on pose des bonnes questions aux animaux. Qu'est-ce qui vous a, vous, le plus surpris dans vos recherches à vous, notamment sur les chimpanzés, sur les bonobos
Mes propres recherches, c'est presque toujours social. Moi, je suis intéressé dans l'intelligence sociale. Les choses, utiliser des outils ou mémoriser ou planifier pour le futur, c'est pas forcément les recherches que moi j'ai fait. Moi, je travaille sur la coopération, la réciprocité, la réconciliation, l'empathie. Et peut-être que j'ai été le plus étonné quand on a découvert que les singes, ils ont un sens de justice.
Parce
que, oui, on n'avait pas forcément... attendu ça, on faisait la recherche avec des petits singes capucins et on a trouvé que...
Petits singes en plus, même pas des grands singes.
Oui, ce n'est pas des grands singes, non. Les petits singes à queue qu'on a trouvé que quand on donne de nourriture à l'un à l'autre, ils sont très sensibles à ce que l'autre va recevoir pour la même tâche. Alors on leur fait travailler pour la nourriture et si l'autre a de meilleures nourritures, ils arrêtent de travailler. Et on a testé ça. On donne à un capucin un grain de raisin et l'autre un morceau de concombre. Et bien sûr, un grain de raisin 10 fois mieux que ça. Et celui-ci qui reçoit des concombres, normalement, il veut bien travailler pour le concombre. C'est assez bien pour ça. Mais pas si l'autre reçoit un grain de raisin.
Donc une conception de quoi, presque de justice sociale, enfin d'équité.
Oui,
quoi.
Si vous chercher sur l'internet capucin and fairness, parce que en anglais c'est ça, fairness, on trouve le vidéo, il y a une vidéo très, très drôle de cette expérience-là, et on voit l'émotion que le petit singe a une émotion très forte, et réagit très fort, un peu comme nous en fait.
On est fâché quand il y a une vraie injustice.
Oui, imagine que moi j'ai travaillé le même travail que vous, et vous avez un salaire 2 fois plus haut que moi, et moi découvre ça ce matin, mais je ne serais pas en bonne humeur, je pense.
Bon, donc c'est à voir sur Internet, il y a aussi votre page Facebook, hein, c'est Franz Deval, une page ouverte au public. Amis auditeurs, vous pouvez aussi gagner si vous vous signalez sur notre page Facebook. Il nous reste un exemplaire du livre de Franz Deval. Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux? Comment faire autrement? Comment ouvrir notre esprit à toutes ces formes d'intelligence animale? On écoute Claire Diterzi sur RFI, l'avantage avec les animaux.
Thank you.
Guerzi sur RFI. L'avantage avec les animaux, ça vous plaît cette chanson? C'est qu'ils t'aiment sans poser de questions.
J'aime cette chanson, oui.
Autour de la question, sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux? Je propose, Franz Deval, un dernier éclairage. Une dernière réaction de l'éthologue, spécialiste des pigeons que nous avons entendu tout à l'heure, Luc-Alain Giraldo de l'Université du Québec à Montréal, qui était récemment notre invité.
D'abord, l'intelligence, est-ce que ça existe en dehors des humains? Parce qu'on l'a tellement défini par rapport à nos propres capacités que sommes-nous même capables de reconnaître une intelligence qui ne serait pas humaine? Je pense que c'est fondamental comme question. Comment la reconnaître? Parce que toutes les définitions de l'intelligence sont par rapport à nos propres capacités cognitives. Or, un animal qui serait, par exemple, capable de réfléchir en 8 dimensions, comment on le saurait? Qu'est-ce qu'on ferait comme test? On n'y a même pas pensé que ce serait possible. Le premier qui a pensé que peut-être les chauves-souris utilisaient le sonar, il fallait qu'il soit génial pour penser un truc pareil. Mais il y en a plein de trucs qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut même pas s'imaginer parce qu'on est trop pris avec ce que nous sommes, nous, humains, que même de penser à définir l'intelligence des animaux, c'est une préoccupation profondément humaine. À quel point de degré est-ce que cet animal nous ressemble? Le rat est à 0.4, le chimpanzé est à 0.95, l'orang-outan est à 0.82, mais ça nous apprend quoi exactement? Il y a plein de choses que le rat fait qu'on n'en a aucune idée. Cette diversité que nous sous-estimons de la cognition animale, de la capacité des animaux de repenser le monde dans lequel ils vivent, et c'est incommunicable. On n'y a pas accès à ça.
Vous êtes d'accord, Franz Deval, avec Luc-Alain Giraldo?
Oui, pas complètement, mm-hmm. parce que je crois qu'on peut aussi imaginer l'intelligence des autres animaux. Oui, l'intelligence, on utilise ce terme-là surtout pour résoudre des problèmes dans l'environnement, surtout être des problèmes qu'on n'a jamais vus avant. Est-ce qu'on peut trouver une solution?
Ou à des nouveaux problèmes?
Et la cognition, c'est surtout utilisé pour le processus de collecter d'informations et utiliser cette information. Alors, la cognition, c'est un mot plus grand que le mot intelligence.
Donc, il faut savoir pourquoi vous menez des recherches sur le comportement cognitif, sur la cognition des animaux.
Oui, la cognition. Mais c'est vrai, je suis complètement d'accord qu'on est très anthropocentrique pour la définition qu'on fait et qu'il y a certaines choses que les animaux font qui sont tellement différentes de nous, on n'a même pas le respect pour ça. Par exemple, que les chauves-souris, dans une chambre complètement sans lumière, peut trouver un insecte, on n'est pas impressionné parce que nous, on ne fait pas ce genre de choses. Alors pourquoi
Mais en fait, c'est sacrément impressionnant.
Mais si les chauves-souris commencent à parler, tout de suite, on dit « Oh, qu'est-ce qu'il est intelligent !» Parce que c'est ça qu'on adore. Mais oui, on est très préjugés dans tout ça.
On a beaucoup de préjugés. Oui, on juge par rapport à nous-mêmes. Et puis, c'est vrai qu'on serait incapable de juger la cognition ou l'intelligence à 8 dimensions, je ne sais pas moi, d'une pieuvre ou d'un autre animal. Vous avez parlé aussi des émotions, même chez les petits singes, Franz Deval. C'est un chapitre qui reste aussi à creuser, hein, la question des émotions chez les animaux.
Oui. Je vais écrire un autre livre, sans doute, sur les émotions. C'est pour ça que je n'ai pas tellement parlé des émotions ici. J'ai parlé surtout d'intelligence, de cognition et toutes les avances qu'on a faites parce que les derniers 25 ans, il y a tellement de nouvelles choses qui sont découvertes, c'est incroyable.
On n'arrête pas de découvrir de nouvelles capacités cognitives chez tous les animaux.
Oui, chaque semaine, en fait, il y a quelque chose qui paraît maintenant. Et ça qui est intéressant en ce moment, que tout est accompagné par des vidéos, on trouve des petites vidéos qui démontrent qu'est-ce qu'on veut dire. Autrefois, ce n'était pas possible, bien sûr, de montrer l'intelligence des animaux, mais maintenant, on le voit.
On le voit. Alors, on le voit chez les éléphants. Sur Internet, il y a des vidéos incroyables. Alors, les éléphants pleurent leur mort, ça, on le sait. Les éléphants dessinent aussi.
Je suis un peu sceptique là-dessus. Oui. Parce que ça, c'est très entraîné par le mahout qui est avec l'éléphant. Non, ça, c'est un comportement entraîné. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intelligent dans un sens, mais ce n'est pas quelque chose que l'éléphant ferait spontanément.
Que spontanément, l'éléphant, il pleure ses morts.
Oui, mais ils sont très intelligents. Nous, on a fait des expériences, par exemple, sur la coopération. Les éléphants sont très coopératifs, ils ont beaucoup d'empathie. On a fait des études sur ce genre de choses. Non, on ne sait pas la moitié sur l'éléphant parce que l'éléphant, il peut sentir les quantités des choses. Par exemple,
Vous montrez votre verre, là, s'il met sa trompe dans un... Il peut sentir.
Oui, il peut savoir est-ce qu'il y a 20 grains de quelque chose ou 40 grains de quelque chose dans l'autre. Il peut faire cette distinction, c'est incroyable.
Il est extrêmement subtil, l'éléphant. Oui. De l'intérêt de l'éthologie animale pour aussi remettre en perspective et comprendre aussi nos comportements humains. Vous avez été sollicité, Franz Deval, par l'hôpital de l'université dans laquelle, à Atlanta, l'université de l'hôpital Emory, pour être un peu éthologue, observateur des humains que nous sommes dans des conditions particulières.
Oui, il y a trop de conflits, pas seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe, j'entends la même chose. Il y a trop de conflits dans les salles d'opération entre chirurgues et
chirurgiens.
Chirurgiens, et surtout s'il y a plus qu'un chirurgien dans la salle. Et si on demande après coup qu'est-ce qui se passait, on ne reçoit pas de réponse honnête ou au moins pas correcte. Et moi j'ai mis un observateur dans la salle d'opération pour prendre des notes, un peu comme on fait avec les chimpanzés, pour prendre systématiquement des notes.
Ce qui se passe entre quoi ? Entre les chirurgiens ? Les infirmières, les penseuses.
Oui, c'est en fait drôle, tout le comportement, il y a le comportement sexuel, agressif, affiliatif, du jeu. Il y a toutes sortes. On ne veut pas être impatient, peut-être, après qu'on a entendu tout ce qui se passe là
dans la salle d'opération, pendant l'opération.
Oui, c'est incroyable. Le comportement social humain est complètement visible là. Et nous, on prend des notes qui a des conflits avec qui et comment. Quelles circonstances et tout ça.
Sans jugement, mais pour effectivement essayer de comprendre et peut-être de dédramatiser ces conflits qui peuvent être, j'imagine, très très graves dans les situations urgentes.
C'est en fait une situation très primatologique parce que c'est souvent les chirurgiens sont mâles et les infirmières sont femelles. Alors
c'est le mâle dominant qui a le pouvoir.
C'est le mâle dominant. On observe tout ça. Et je ne peux rien dire maintenant sur le résultat, mais on est en train de faire ce genre de recherche. Oui.
C'est drôle parce que finalement c'est l'inversion, c'est le regard de l'éthologue sur notre monde humain.
Oui.
Quel regard justement vous portez sur notre monde humain, Franz Deval ? Parce que vous travaillez sur l'empathie, la réconciliation chez les singes, enfin voilà, vous parlez d'équité, de justice.
Oui, moi j'ai travaillé aussi sur la politique. Hein. Mon premier livre c'était la politique des chimpanzés. Et maintenant avec les élections en Amérique, c'est très intéressant en fait parce que c'est tout un monde de mâles. Trump, bien sûr, c'est un mâle chimpanzé alpha qui a intimidé tout le monde et j'ai été interviewé par le Washington Post il y a quelques mois et je disais que ce serait vraiment intéressant de voir qu'est-ce qu'il va faire avec un adversaire femelle parce qu'il ne peut pas faire la même chose et c'est ça, maintenant son campagne ne va pas très bien parce qu'il ne sait pas quoi faire. Il peut très bien intimider d'autres mecs. C'est très facile à faire parce qu'il a l'habitude de faire.
Oui, c'est un mâle alpha dominant, on a compris.
Mais là, il rencontre une femme de son propre âge qui est femelle.
Et qui est dominante elle aussi, a priori.
Elle aussi, mais on ne peut pas faire la même chose. On ne peut pas taper
taper sur le torse pour montrer sa virilité. Ça ne marche pas.
Non, ça ne marche pas de la même façon, non.
De l'intérêt d'être éthologue, pour étudier non seulement tous les animaux, changer de regard, mais aussi pour changer de regard sur nous-mêmes. Merci infiniment, Franz Deval, d'être venu en direct partager toutes ces interrogations, toutes vos recherches. Je rappelle le titre de votre dernier essai passionnant, « Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux ?» illustré de dessins par vos soins. Merci, Franz Deval.
De rien.
Autour de la question sur Internet, www.rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster sur le site de RFI ou sur l'application RFI Pure Radio. Demain, nous nous interrogerons sur l'hyperpuissance de l'informatique avec le professeur Gérard Berry du Collège de France. Autour de la question, pourquoi l'informatique met le monde à l'envers, avec Apolline Verlon-Raison à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. D'ici là, portez-vous bien, amis auditeurs. Surtout, restez curieux et gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possible à l'écoute de RFI, le prochain journal dans une petite minute. Priorité.